entrée du bouchain au chasseur oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Et
bonjour et bienvenue à tous dans cette tribune d'échange et des partages. Parole aux auditeurs. Le Sénat vient d'adopter après examen la loi portant statut du militaire des forces armées de la RDC. Une importante étape qui vient d'être franchie, selon certains observateurs, pour l'essor des FRDC et la police en vue de l'amélioration de leurs conditions sociales. A noter aussi que ce projet prévoit, entre autres, dispositions que les chefs de l'État peut nommer, relever les cas échéants, révoquer les officiers militaires et de la police nationale congolaise. Comment réagissez-vous? Notre standard est ouvert et inscrivez-vous pour participer à ce débat. Vos critiques, questions et préoccupations, faites-les nous parvenir en nous appelant au 081 890 43 39 et si possible, rejoignez-nous également à notre courriel pa@radiocapi.net et postez aussi vos préoccupations sur notre page Facebook. Titi Poutou, Sylvain Matundou et Pierrot et la Mégie réalisent cette émission. J.R. Lungembo vous la présente sous la supervision de Nicole Gata. Bienvenue à tous.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons dans ce studio Madame Eve Bazaïba, qui est notre invitée, et nous avons déjà quelques auditeurs qui sont en ligne pour participer à cet échange et partage autour de cette question sur la loi portant statut du militaire congolais. Nous avons, comme je l'ai dit, dans ce studio, Madame Eve Bazaïba pour en parler. Bonjour, Madame Eve.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
Voilà, la première question aujourd'hui, la loi portant statut du militaire congolais venait d'être adoptée après examen d'ailleurs au niveau du Sénat, mais avant, le même exercice a été fait au niveau de la Chambre basse. La première question, est-ce que cette loi est vraiment une nécessité pour les Congolais en ce moment?
Oui, merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je veux d'abord commencer par saluer les auditeurs de parole aux auditeurs de la Radio Okapi et bien entendu remercier la Radio Okapi qui m'a donné l'opportunité aujourd'hui de parler de la problématique du statut des militaires. Alors, l'importance de cette loi. En fait, la loi a été adoptée conjointement dans les deux chambres. Nous avions déjà adopté la loi en son temps, lorsque j'étais encore au Sénat, et j'avais présidé, co-présidé les travaux de l'examen de cette loi portant statut de militaire, en collaboration bien entendu avec la commission défense et sécurité. Moi, j'ai présidé la commission socioculturelle. Et nous l'avions adopté, nous l'avions envoyé en son temps au cabinet du chef de l'État pour promulgation. Et le chef de l'État nous avait renvoyé en deuxième lecture. Et là, c'était conformément aux avis de la Cour suprême de justice qui voulait que nous puissions réaménager, revoir, donc réamender l'article 73 ou l'article 73, parce que nous avions seulement énoncé les orientations en ce qui concerne les compétences du chef de l'État qui relèvent de leurs fonctions le cas échéant, révoque par ordonnance délibérée en Conseil des ministres sous proposition du gouvernement et le Conseil supérieur de la défense entendu. Nous avons avons parlé des officiers généraux, des officiers supérieurs des forces armées. Là, les avis de la Cour suprême de justice avaient exigé que nous allions en détail pour expliciter le pouvoir du chef de l'État en tant que commandant suprême. Et chose qui a été faite, il y a eu mise en place donc d'une commission mixte paritaire de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, et nous avons pu adopter à un temps record en des termes identiques. Et bien, donc la loi est répartie encore pour suivre le mécanisme pour sa promulgation.
Voilà, donc vous avez dit en des termes identiques, cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Oui, parce que selon les us et coutumes parlementaires, un projet de loi ou une proposition de loi fait souvent des navettes, peut commencer soit à la chambre haute, soit à la chambre basse, en dehors de la loi de finances, où le projet de loi suivant la constitution est justement l'Assemblée nationale. Alors, lorsque nous adoptons, et logiquement, il peut arriver, très souvent il arrive que nous puissions adopter en des termes non identiques. Et une fois de plus, conformément à la constitution, les deux chambres sont appelées à mettre en place une commission mixte paritaire pour harmoniser les termes d'adoption, parce que c'est une seule loi à des termes identiques qui doivent être envoyés pour suivre le mécanisme d'adoption. Si c'est une loi ordinaire, ça passe directement au cabinet du chef de l'État pour la promulgation. Et si c'est une loi organique, ça doit nécessairement passer aussi à la Cour suprême de justice pour l'examen de sa conformité à la Constitution.
Voilà. Alors aujourd'hui, on le sait, la constitution d'une armée s'appuie sur un statut des forces armées basé sur la séparation et la clarification des responsabilités entre les autorités civiles et militaires. Est-ce qu'il y a les cas dans ce projet de loi portant statut du militaire de l'armée?
Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord spécifier que nous attendons sa promulgation. Il faut dire ceci. La loi portant numéro 81-003 du 17 juillet 1981 et portant statut du personnel des carrières de service public de l'État, qui régit également le personnel militaire, n'a pas pris en compte la spécificité de la fonction militaire. Donc la particularité de la vie militaire rend nécessaire l'adoption donc d'un statut spécifique applicable aux différentes catégories de militaires, de manière cette fois-là à concilier les exigences de la défense de la patrie avec le respect de la promotion des droits fondamentaux de ces citoyens qui servent sous les drapeaux. Car au niveau de l'armée, il n'y a pas de syndicat. Au risque de verser à une mutinerie, les militaires ne peuvent pas se constituer un syndicat pour défendre leurs droits. Donc nous avons donc tout intérêt à défendre cette loi. Cette loi implique il fixe les conditions du déroulement de la carrière du militaire depuis le recrutement jusqu'à terme de son service. Donc on détermine en outre le régime disciplinaire auquel le militaire est soumis et toutes les questions liées à son statut social. Donc sa santé, l'habitat, on peut dire comment est-ce que le militaire est caserné, et le niveau de l'éducation de lui-même, l'instruction de ses enfants, et même l'aumônerie, l'organisation sociale en fait, jusqu'au niveau de sa solde, comme on était en son temps, et cela renforce souvent le moral. Un militaire au front, un militaire au service, parce que les sacrifices en fait que le militaire est en train de faire, les sacrifices qui peuvent aller jusqu'au sacrifice suprême, je vous ai dit, importe à ce qu'on puisse reconnaître, la nation puisse reconnaître la délicatesse de ses charges et garantisse en son tour aux citoyens militaires, hommes et femmes, des droits répondant aux obligations particulières qui caractérisent le métier. Donc voilà raison pour laquelle il y a eu d'ailleurs l'implication de la commission socio-culturelle à l'examen de cette loi aux côtés de la commission défense et sécurité.
Voilà, finalement que cette commission socio-culturelle, dont vous présidez d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons prendre quelques auditeurs qui sont déjà en ligne, tout en rappelant à ceux qui nous rejoignent qu'ils peuvent nous contacter au 081-890-43-39.
Parole aux auditeurs.
Émile, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Émile.
Bonjour M. Julien, bonjour à l'auditeur ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio.
Voilà Émile, comment réagissez-vous par rapport à l'adoption de cette loi portant statut du militaire?
En tout cas, moi je suis tout à fait d'accord avec l'adoption de cette loi. mais il ne suffit pas tout simplement de confier un maximum du pouvoir à la présidence de la République. Moi, je pense que cette dernière, c'est-à-dire la présidence de la République, qui n'est pas gérée par un fils légitime et digne de son nom, qui est donné le meilleur de lui-même à ses sacrifiants, corps et âme, disons, pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays. Je pense qu'il est tout à fait difficile d'avoir une armée crédible, forte, disciplinée, et un capitaine, mais digne de son nom, que nous en voulons tous. C'est ça, à propos.
Merci beaucoup, Émile. Marcel, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Marcel.
Ah, bonjour, Radio Capi, et bonjour aux auditeurs de la Radio Capi, et à l'invité également.
Voilà, Marcel, comment réagissez-vous?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je sais que tout le monde sait que le président de la République est l'autorité qui a plusieurs casquettes. Et en s'agissant du pouvoir que le Parlement vient de lui octroyer ou de lui procurer, je crois que c'est une chose, hein. Moi, simplement, bien que les droits aient ce qui est et non ce qui devrait être, je pense que si le législateur pouvait au moins penser à ce que le pouvoir de nomination ou l'acte ou l'ordonnance portant nomination des hauts officiers des forces armées soit confié au président de la République, mais leur révocation soit plutôt confiée au Parlement, ça serait une bonne chose. Et pourquoi journaliste? Puisque demain, nous risquerons à avoir une armée qui ne sera pas républicaine, mais qui sera plutôt pour la propre sécurité du président de la République, d'autant plus que tous les officiers qu'il aura à nommer et dans les cas échéants à révoquer, ne pourront qu'à répondre à ses obligations et non aux attentes du peuple ou à la sauvegarde de l'intégrité nationale. Voilà pourquoi, d'une part, c'est bien, et de l'autre côté, il faut voir aussi tenir compte de l'aspect sociologique de notre pays. Ça sera une bonne chose.
Merci beaucoup, Marcel. Nous retenons que votre inquiétude tourne autour de l'article 73, hein, qui a quand même subi quelques réaménagements. Vous proposez, vous, que le chef de l'État garde la compétence de pouvoir nommer des officiers, des hauts officiers de services militaires, et aussi donc donner le prérogatif de révocation de ces agents au niveau à l'Assemblée nationale. Voilà, donc ça c'est ce que vous avez dit. Merci Marcel d'avoir appelé. Stéphane, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Stéphane.
Bonjour monsieur le journaliste.
Stéphane, est-ce que vous partagez l'avis de Marcel qui vous a précédé? Voilà Stéphane, vous êtes en ligne. Comment réagissez-vous? Voilà, le temps que la ligne puisse bien se rétablir, donc nous avons une communication très fluide avec Stéphane. Nous prenons Clément qui est en Boujimaï. Bonjour Clément.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Comment réagissez-vous, Clément?
Oui, je suis très content et nous apprécions, nous remercions concernant l'Assemblée nationale et le Sénat pour ce grand travail qu'ils abattent. Mais la grande préoccupation est que c'est dans l'application maintenant de cette loi. Nous voudrions que, comme ils l'ont dit, qu'ils l'appliquent. Parce que si maintenant il y a une carrière qui est foulée au pied, par les autorités, par la population, c'est l'armée. Donc, le militaire est devenu un mendiant, mais alors que quelqu'un qui défend les intérêts nationaux de l'État et qui défend la population et ses biens. Alors, nous avons besoin et nous voudrions en fait que l'État s'y mette maintenant pour l'application maintenant de cette loi. C'est ça ce que nous voudrions. Parce que, à titre illustratif, je me rappelle à la guerre de la Belle, j'étais à l'est de la RDC, où vous voyez un mercenaire qui mange correctement, mais un militaire congolais qu'on donne le visage tout simplement. Comment voulez-vous que cet homme ait le courage, ait l'intérêt de pouvoir défendre son sol et son patrimoine? Alors voilà un peu ce que nous sommes en train de demander, l'applicabilité maintenant de cette loi. Il faut qu'on se mette comme la commission socioculturelle est entrée aussi dans la commission, alors nous aimerions ce que l'application soit effective et que les militaires se retrouvent.
Merci beaucoup, Clément, d'avoir participé à cette émission. Raphaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Raphaël.
Oui, bonjour, c'est M. Raphaël Tumbunga de Lubumbashi.
Oui, comment réagissez-vous?
Oui, je voulais demander à notre invité, est-ce que cette loi, c'est encore une proposition de loi ou cette loi est mise à l'application? Il fait que les militaires sont là pour maintenir la sécurité. Mais les dangers que nous avons dans notre pays, nous avons vraiment un danger imminent dans la mesure où la plupart des gens qui mettent la population en aidant dans les sécurités, c'est les militaires, dans la mesure où ils ne sont pas payés tel qu'il faut. Ils ne sont pas traités dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si cette loi sera mise en application.
Voilà, merci Raphaël. Nous retenons que pour vous, votre inquiétude tourne du côté de travail qui doit être fait le militaire, qui est censé d'ailleurs sécuriser la population sur le terrain. C'est autre chose qu'on constate. Voilà, nous avons dans ce studio Madame Eve Bazaïba. Tour à tour, nous avons suivi les interventions des uns et des autres. Hein. Est-ce que à votre niveau, vous partagez l'avis des auditeurs? Mais bien entendu, nous savons qu'il y a d'autres personnes qui peuvent aussi également intervenir dans cette émission. Il y a Ernest qui est à Matadi, il y a Pierrot qui est à Tshilenge, et vous pouvez également les faire à votre niveau, donc, c'est-à-dire en composant le 081-890-43-39. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre à d'autres adresses, à notre courriel ta@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Madame Eve Bazaïba, vous avez suivi tour à tour Émile, Marcel, Clément et Raphaël. Comment réagissez-vous par rapport à leurs inquiétudes? Parce que Raphaël a évoqué les compétences des chefs de l'État telles que vous l'avez révisées au niveau de l'article 73. Marcel est revenu sur l'aspect de nomination et le Parlement, donc les compétences des uns et des autres. Clément parle de l'applicabilité et Raphaël conclut en disant que les mêmes militaires qu'on doit protéger aujourd'hui servent la sécurité et qui sont censés sécuriser la population.
Ok, merci beaucoup. Avant de répondre de manière spécifique à toutes les questions, je voulais d'abord relever que la commission socioculturelle du Sénat, c'est seulement cette commission qui était impliquée à l'examen de la loi, et non la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale.
Et pour quelle raison?
Pour quelle raison? Je l'ai évoqué ici, vu les conditions. En fait, ça rentre dans les réformes du système de sécurité. Lorsqu'on veut réformer le système de sécurité, il y a la partie structurelle, et puis il y a la partie ressources humaines. La partie structurelle, on doit aussi savoir que il y a eu déjà une loi qui, du reste, a été promulguée. C'est la loi organique numéro 11/12 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des forces armées. Ça, c'est la partie structurelle où vous voyez tout ce qu'il y a comme structure de l'armée. Nous avons, au cours de cette loi, lors de son examen, procédé à l'affirmation de l'état de droit, les mécanismes de commandement, les missions et l'organisation des forces armées et toute la structure dont je vais parler tout à l'heure. Et ça, au niveau de la structure. Maintenant, concernant la ressource humaine, on ne peut pas parler de la ressource humaine, parler des structures, sans impliquer cette ressource humaine qui est appelée à y travailler. Donc nous devons nous en occuper socialement, de sorte que la ressource humaine ait le moral qu'il faut, ait les conditions nécessaires qu'il faut à se donner à travailler sous les drapeaux. Il s'agit donc des hommes et des femmes qui travaillent sous les drapeaux, donc l'armée. Alors, il y a maintenant dans la réponse des questions spécifiques sur les inquiétudes des auditeurs. Mmh. Je salue en pensant à M. Emile de Lubumbashi, M. Marcel de Kisangani, Stéphane de Kinshasa qu'on n'a pas pu joindre, nous attendons encore son coup de fil, M. Clément de Mbujimayi et M. Raphaël de Lubumbashi qui a parlé de la loi si elle est promulguée promulguer ou pas. On doit aussi clarifier que nous attendons la promulgation de la loi portant statut du militaire, au même titre que nous attendons la promulgation de la loi portant statut du policier. Parce que la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale, ont été déjà promulguées. Donc, pour le moment, c'est supposé être appliqué et exécutoire et opposable à tous.
Et ce sera le problème aussi, je crois que c'est l'inquiétude aussi d'Ernest et Matadi et les autres qui ont été évoqués. Mais on va tout de même écouter Ernest qui est à Matadi. Ernest, vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour.
Oui, comment réagissez-vous?
Je vais bien, maintenant je fais le parquet.
Oui, si vous pouvez dynamiser votre voix, Ernest, parce qu'on vous suit à peine.
Oui, la ligne est faite.
Oui, allez-y. Je crois qu'on doit avoir quelques petits problèmes au niveau de la communication avec vous. Essayez un peu quand même de dynamiser votre voix, comme ça nous allons nous permettre d'écouter ce que vous dites.
Oui, est-ce que l'honorable pourrait nous dire les mots de façon profonde, sinon cette loi cache des failles constatées dans les désertions en cascade au sein de l'armée et de la police. Et aussi, je constate, il y a, dans les années passées, le président avait promulgué une loi parlant de statut des agents de l'enseignement, des préfets, des directeurs, etc. Mais il n'y a pas d'effet sur le terrain. Et dans l'armée, le service technique, le président risque de nommer des gens qui sont vraiment dociles, qui vont écouter le président de la République et vont saboter même les collaborateurs des services au sein de l'armée. Et cette nomination risque aussi d'être dans une situation inclinée. Mais là, je ressens des deux ou des trois provinces de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons, lorsqu'on a mené des campagnes, moi je parle de des propos censurés, les jeunes gens, de s'enrôler dans l'armée. C'est qu'on a constaté. Sur ça, les autres engagés par le système Atali, on a retenu qu'après le système Congo, les gens restent. On retrouve des gens responsables de toutes les provinces. Alors, on dit non, il faut rester de quoi au niveau pour gérer la propagation des réductions. Donc, il arrive d'avoir des problèmes dans les affectations et même les agressions qui se trouveront. Donc, je crains, moi, sincèrement, que les paysans risquent de ne pouvoir toucher tout ça, que de minimiser l'air de l'armée. Donc, il fallait beaucoup bien nous dire quelles sont les motivations profondes qui ont motivé à faire une loi respect dans la nomination des officiers. Or, on doit faire tout ça, ça risque de créer des inégalités dans la position qui a des sous-officiers qui seront.
Merci beaucoup Ernest. Donc vous rejoignez l'inquiétude de Marcel, voilà, qui parlait de la nomination et aussi des compétences qui devaient être attribuées au Parlement. Merci beaucoup. Pierrot, vous êtes à Tshilingué. Bonjour Pierrot.
Bonjour Pierre, c'est un bonsoir.
Voilà.
Je salue aussi l'honorable Thierry.
Oui, allez-y Pierrot.
Voilà. Je crois que dans ce pays, on en est marre avec les lois, les communications des lois sur telle, sur telle. Et je pense que non seulement nos parlementaires, ils sont là pour élaborer les lois et donner ça à la présence pour la communication, mais aussi ils sont là pour la suivi et l'applicabilité de ces lois-là. Alors, si aujourd'hui, par exemple, vous parlez à un militaire qui est au front, que votre statut est à la présence pour sa prononciation, est-ce qu'il fait comprendre? Alors, ils ont besoin de leur somme. Nous connaissons bien la vie qu'aimait le militaire présentement. Nous passons dans des casernes, nous voyons comment les maisons, les logements, tout ça. Bon. Ils sont là pour élaborer des lois, les autres sont là pour la prononciation. Mais sans les responsabiliser. Alors, on en est marre dans ces pays avec ces histoires-là. Nous voulons les choses palpables. Nous voulons qu'on nous dise qu'on a prononcé la loi. Et voilà, on est en train d'appliquer.
Quels sont les mécanismes de l'applicabilité sur le terrain? Merci Pierrot d'avoir appelé de Tshilingué. Sébastien, on va terminer cette première série d'auditeurs de cette première demi-heure. Avec vous, Sébastien, vous êtes à Issiro. Bonjour Sébastien.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, vraiment, moi, je suis choqué par cette histoire de loi que notre assemblée est en train de légiférer là-bas. Parce que notre problème, ce n'est pas légiférer des lois qui ne sont rien différées. Notre problème, c'est que nous avons besoin de l'applicabilité de ces lois. Je vous dis, je vous donne un exemple. Arrivez ici, chez nous, à Issiro, pour voir comment ces ministères dorment. Ils sont dans des petites maisonnettes en paille, vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas honorable pour notre pays. Nous, notre problème, c'est quoi? Par exemple, maintenant, nous suivons à la lettre la guerre qui se passe au nord. Quand nos soldats, on les envoie au front, sans nourriture, sans équipage, et ça fait cette loi là-bas. Nous, notre problème, c'est qu'on essaie d'équiper notre armée, qu'ils sont bien logés, qu'on essaie de les soigner. Vraiment beaucoup. Je vous dis, je profite à cette occasion pour dire à notre à l'invité qui est au studio là-bas. Bon, il faut des lois. Est-ce qu'il faut quand même des civils pour que ou bien ces lois sont vraiment appliquées? Vraiment, nous sommes fatigués avec ces lois là-bas. Nous, notre problème, c'est qu'on essaie d'organiser notre armée, que nos militaires soient bien vêtus, bien vêtus. Ici, par exemple, ici à Issiro, l'armée n'a même pas investi. Parce que ça, c'est vraiment une armée. Oui, ma contribution à cette...
Voilà, alors donc on va se faire la violence, on va libérer Kanenge qui attendait depuis très longtemps. Kanenge, vous êtes à Goma. Bonjour Kanenge.
Bonjour monsieur.
Oui, comment réagissez-vous?
Bon monsieur, c'est très vite d'abord à cette déclaration de la loi, cette promulgation, pardon.
Oh, non, on n'a pas encore... La loi n'a pas encore été promulguée. La loi a été adoptée au niveau des chambres, du Parlement, donc on attend la promulgation par le chef de l'État.
Ah, merci pour cette correction. Parce que moi ici, j'ai un exemple terre à terre. Je suis un commerçant. Mais chaque jour, une part qu'un jour, les militaires arrivent ici pour quémander. Moi je me demande, est-ce que le gouvernement congolais prend en charge les militaires? C'est anormal qu'on trouve un militaire qui est en train de quémander pendant toute la journée. Et de dire que non, le gouvernement ne prend pas soin de nous, veuille vraiment nous aider, même sans ça, ça peut faire quelque chose pour nous. C'est honteux pour notre pays. Cela montre que le gouvernement, et en d'autres termes, c'est qu'il ne fait pas son travail. Moi, je salue souvent la radio Capi, parce qu'il nous donne cette possibilité de donner nos points de vue concernant notre pays.
Voilà, donc... Allez-y, donc vous... Merci, ça nous va droit au cœur, et nous vous accordons la parole, Radio Capi vous accorde toujours la parole au travers de cette émission, parole aux auditeurs, pendant 57 minutes de partage et d'échange, donc vous êtes conviés à émettre aussi votre point de vue, et aussi à réfléchir ensemble avec nos invités autour des questions que nous nous posons. Donc merci Kanenge d'avoir apporté votre contribution, et nous rappelons à nos auditeurs qui viennent encore de nous rejoindre, qu'ils peuvent également nous faire parvenir la réaction au 081-890-43-39.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, honorable Eve Bazaïba. Vous êtes dans ces studios, si on peut ramasser et rapidement les préoccupations des uns et des autres, et aussi d'avoir une réponse par rapport à leur inquiétude. Nous parlions tout à l'heure d'Emile, de Marcel, de Clément, de Raphaël, Ernest, et sur la liste, bien s'ajouter encore Pierrot de Timengue, Kanenge de Goma, et Sébastien Dissiro, qui ont posé pratiquement les mêmes inquiétudes, l'applicabilité, les compétences de la présence, pourquoi on ne pourrait pas penser autrement. Et que répondez-vous, Madame Eve Zapareiba?
Les compatriotes ont totalement raison. De Matadi à Goma, vous avez compris, de Issiro à Lubumbashi, ils ont totalement raison. Et d'ailleurs, lorsque nous avions procédé à la discussion du budget, nous avions dit ceci: on ne peut pas parler de la réforme de l'armée et espérer à ce que on puisse réformer cette armée-là avec les ressources extérieures, parce que les ressources extérieures sont totalement hypothétiques. Il faudrait que ce soit des ressources intérieures pour raison de sécurité, de souveraineté et raison d'efficacité. Cela étant, tout ce que les compatriotes ont pu relever ici, des versions des militaires, des failles, le militaire qui commande, etc. Justement, la loi vient pour corriger. Il a existé une loi, je l'ai citée, la loi qui porte le statut des personnels de carrière de service public de l'État, dont le militaire. Mais nous avons remarqué que cette loi-là ne tient pas en compte la délicatesse du métier des armes. Cette loi-là a aussi des failles par rapport à la spécificité du travail des hommes et des femmes qui travaillent sous les drapeaux. Voilà pourquoi nous avons adopté cette loi et nous sommes engagés maintenant au suivi et au contrôle. Je crois que la plainte ou les supplications.
Est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi, de contrôle?
Le mécanisme de suivi conforme.
Il y a vraiment un grand, il y a tout entre le vote de l'adoption même des lois et l'applicabilité. C'est comme s'il y a un vide, quoi.
Oui, vous avez raison sur toutes les lois, mais en ce qui concerne la spécificité de l'armée et de la police nationale, c'est à peine que nous venons d'avoir les lois réformées. C'est maintenant que nous attendons la promulgation de la loi sur les statuts des militaires pour que, conformément au pied et à la lettre de la loi, nous puissions jouer notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Mais il faut quand même dire que les compétences du chef de l'État en tant que commandant suprême ne viennent pas de l'Assemblée nationale, ce sont des compétences constitutionnelles. On n'a qu'à voir l'article 81. Si nous avons revu l'article 73, c'est l'article 81, je dirais, de la Constitution. Si nous avons revu l'article 73 de la loi portant statut de militaire, c'est suivant l'avis de la Cour suprême de justice, c'est pour aller dans la spécificité de cela. Mais il faudrait que nous puissions les lire en combiné. Vous savez, la loi portant réforme, pardon, je vous ai parlé de l'organisation du fonctionnement des forces armées, affirme la soumission des forces armées à l'autorité civile constitutionnellement établie et à quelque niveau que ce soit du pouvoir, un chef de localité, un chef de collectivité, un bourgmestre, administrateur du territoire, un maire de la ville, gouverneur de la ville, civil, les forces armées sont appelées à être soumises à cette autorité. Parce qu'il y a un des compatriotes qui avait soulevé cette inquiétude. Ici, si nous sommes allés à la société, c'est parce qu'il y a une structure qui est mise en place. Prenons le cas des régions militaires, qui font partie aussi des structures militaires. On a donné le pouvoir au chef de l'État de nommer et de relever de leurs fonctions les chefs des régions militaires. Donc, en commençant, il y a trois pratiquement.
Oui, madame Eve, parce qu'à ce niveau, c'est ça l'inquiétude des auditeurs. Mm. Rien n'a changé. Il a été et toujours ainsi. Et nous avons, selon eux, remarqué que si aujourd'hui il y a beaucoup de cas de désertion, parce que tel n'est pas d'accord avec telle décision de la haute hiérarchie, qui voulait, selon, disons, les dissidents, qui évoquent parfois des maladresses ou des complaisances dans la prise de certaines décisions. Donc vous ne craignez pas que nous sommes tournons toujours en rond.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je veux vous dire, l'alinéa premier de l'article 73, par exemple, qui dit « Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et les cas échéants révoquent par ordonnance délibérée en conseil des ministres. » Il y a d'abord l'ordonnance délibérée en conseil des ministres sur proposition du gouvernement. Le gouvernement, ce n'est pas un individu, c'est le conseil des ministres. Et le conseil des supérieurs de la défense entendu. Et il y a toute une composition du conseil des supérieurs de la défense. De sorte que toutes les structures militaires et sécuritaires des hauts commandements militaires soient informées de la révocation, de la nomination d'abord et du cas échéant de la révocation. Mmh. De sorte qu'il n'y ait pas des élections libres. Mmh. Alors, dans la réforme aussi de l'armée, ceci implique qu'on puisse changer même le système de recrutement. Nous sommes, cette armée actuelle, c'est une armée hybride. Parce qu'au sortir des négociations, il y a même des civils où vous voyez les personnes dont les noms suivent sont nommées au grade de colonel. Alors qu'il y a une certaine, il y a un cursus à suivre dans l'armée. On ne peut pas devenir colonel en commençant par être civil. Non, justement parce qu'il y a eu brassage, il y a eu mixage, il y a eu je ne sais pas quoi, l'ensemble. Et jusqu'à présent, vous voyez deux, trois personnes en civil qui prennent les armes.
Il y a une auditeur qui a évoqué même par rapport au recrutement. Le recrutement recrutement se fait sur base de l'appartenance à tel parti politique, donc à l'époque, surtout comme il y avait tel parti ou telle tendance. Mais il y a Charles qui est à Lubumbashi, qui attendait depuis trop longtemps pour réagir. Charles, vous êtes en ligne, bonjour.
Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs, même l'invité.
Voilà, Charles.
Oui, monsieur le journaliste.
Oui, allez-y.
Monsieur le journaliste, nous sommes vraiment déçus avec l'histoire des lois. Depuis qu'on a commencé à voter des lois, il y a d'autres lois qui ne sont pas respectées. D'ailleurs, au Congo, nous avons cette habitude-là de reconnaître les lois.
Voilà, dommage, Charles n'est plus en ligne. Kabacha, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Kabacha.
Oui, papa, je suis à Bukavu.
Oui, comment
vous êtes ici? Moi, j'ai toujours remarqué que plus il y a de là, plus les assujettis sont tracassés. Quand on voit ce cours toujours tracasser les assujettis, parce que la loi comporte toujours deux parties. Une partie pour les obligations des assujettis, et les obligations du gouvernement.
Décidément, on a un petit problème, un petit souci au niveau de la communication. Kabacha n'est plus en ligne. Ousmane, vous êtes à Maragui. Bonjour Ousmane.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kabi.
Oui, comment réagissez-vous?
Oui, en fait, moi je déplore pour. Je ne sais pas saluer du tout, puisque la RDC est la première à adopter des lois. Et pourtant, la loi que prévoit aujourd'hui le Parlement, on ne sait pas cet esprit-là. Qu'est-ce que dit d'abord la loi pour saluer? Avant qu'on puisse saluer cette loi, il faudrait qu'on puisse essayer de voir l'esprit de la loi. Et en fait, au moment de faire les bilans de 50 ans d'indépendance et de regarder le futur de la République démocratique du Congo, il est évident à toutes les garanties de la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays, c'est une impérative nécessaire. Pour moi, je pense que l'armée est aujourd'hui un peu ambiguë, c'est un peu divisé ça et là. Comment on peut adopter une loi où on ne peut pas la mettre en application? Donc c'est un peu vague pour moi. Alors je demanderai peut-être au législateur, à Madame Père Bazaïba qui est au sujet, nous donner un peu les condensés de cette loi avant qu'on puisse l'applaudir. Voilà un peu ma contribution.
Voilà, donc je crois que la loi contient beaucoup, beaucoup d'articles et beaucoup de propositions là-bas. On prendra peut-être ce qui est essentiel. Madame pourrait répondre d'un moment à l'autre en ce qui concerne la rémunération, ce qu'on appelle le solde militaire. Hein. Surtout parce que je crois bon nombre à tout cela. Et surtout que ces derniers temps, on a appris qu'il y avait des tournements ici, des tournements là-bas. On ne sait pas comment, quels sont les mécanismes mis en place pour qu'on puisse sanctionner des personnes qui vont se redonner à des telles pratiques. Alors, Ousmane, merci d'avoir appelé de Maragui. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Ismaël.
Bonjour.
Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je devais réagir par rapport à ce que notre invité vient d'expliquer. Mais de toute façon, moi, je devais aussi savoir que l'adoption de cette loi est contre. Mais à savoir, il y a aussi certaines lois qui ont été promulguées, mais qui n'ont jamais été arrivées jusqu'à l'issue. Telle que la promulgation de la loi et la promesse de Mbout. Ça ne présente, je crois, aucune réalisation. Et la loi pourtant aussi au sujet des militaires, je vois que ça ne serait pourtant encore rien. C'est pas parce que nous voyons même dans la ville où nous sommes, les militaires sont en train même de manger. Cela montre la suffisance que c'est une peine, une difficulté totale pour les militaires de la RDC. Et le pays ne pourrait jamais avoir une stabilité en cas de menace ou en cas de.
Voilà, vous êtes aussi pessimiste, Ismaël, comme vos prédécesseurs. Bienvenue, vous êtes à Cape Town. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue tous les auditeurs et notre invité qui est là.
Oui, comment réagissez-vous, bienvenue?
Oui, je suis d'abord content que la loi n'est pas encore promulguée, même si elle a été adoptée. Moi, je pense que notre armée est malade et nous devons, avant de promulguer la loi, si les décideurs peuvent nous donner la chance de revoir, ou si vous voulez, réviser les grades que nous observons aujourd'hui dans notre pays, nous avons des généraux-majors qui n'ont jamais été sous-lieutenant-major, capitaine et consorts. Si on peut d'abord diviser, faire une distinction entre les militaires ex-FAZ et les militaires non ex-FAZ avant de promulguer la loi. Nous avions connu, comme le monde entier le dit, Mobutu était le plus grand dictateur, mais ce fils montait les grades conformément et il montait des grades comme tous les officiers. On a vu des généraux, nous avons des généraux aujourd'hui qui viennent dans la vie civile et parce qu'il est membre d'une telle tribu. Et même dans la loi, j'ai étudié en droit civil, on nous a dit si nous avons aujourd'hui des étrangers qui sont dans notre armée, et dans les droits civils, on nous disait que si un étranger devient congolais, son dernier grade, c'est adjudant-chef. Mais nous avons des touches aujourd'hui qui sont dans les gouvernements généraux, majors, colonels et consorts. Moi, je pense qu'on ne peut pas seulement voter une loi pour mieux lorsque l'armée en soi est malade. Il faut commencer d'abord à parvenir de cette armée, cette hémorragie de grâce, revoir ça, et puis après, on va promulguer la loi. Moi, je pense qu'il est si facile et qu'on promulgue pas la loi avant d'abord pour revoir en baisse toutes les grâces.
Merci beaucoup, bienvenue d'avoir appelé le Cap Town, et coucou à tous ceux qui nous suivent dans cette ville et aussi dans toute l'Afrique du Sud. Djodjo, vous êtes à Kolwezi, on va terminer avec vous. Djodjo, bonjour.
Bonjour, c'est moi Djodjo qui nous de Kolwezi.
Oui, allez-y Djodjo.
Oui, j'ai dit ceci. On a beaucoup déjà voté des lois, mais jusque-là, on n'a rien vu. On laisse de nous distraire parce que la République démocratique a porté à Dieu. Autant de jours, Dieu nous donnera la solution à ce que nous avons besoin. Merci beaucoup.
Voilà, Djodjo, merci. Il faut retenir une chose que la société doit être aussi dirigée, gouvernée. Et je crois qu'à un certain moment, il faut quand même qu'on puisse réguler certaines choses. Hein, pour la politique à tous les niveaux, recadrer un peu les choses. Sinon, bon, nous serons tous dans la jungle. Nous vous invitons, chers auditeurs, à participer à cette émission en composant bien entendu le 081-890-63-15.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs, Jiangim.
Voilà, Madame Eve Bazaïba, nous revenons à vous. Vous avez vraiment suivi avec attention, soutenu les interventions des uns et des autres. Voilà, donc tous les intervenants de tout à l'heure sont sceptiques, et surtout quant à l'applicabilité, si vous pouvez quand même revenir sur ça. Et un auditeur a insisté pour dire qu'ils ont besoin quand même d'avoir une idée, et de se faire une idée sur le contenu, d'ailleurs, de ce projet. Nous savons que le contenu, il y a beaucoup de choses, hein, mais ce qui est plus important, si vous pouvez peut-être nous fixer sur les conditions de travail, qu'est-ce qui sera l'avantage de ces militaires par rapport à cette loi?
Oui, l'avantage, je vais d'abord commencer par, dans l'ensemble, ce sont les droits. Hein, les droits. Oui. Je prends le cas des rémunérations, ce qui est évident. Donc, le militaire a droit à une rémunération. Cette rémunération est payée mensuellement au cours du mois auquel le travail a été dû. En dehors des rémunérations, nous avons des primes que nous avons pu instituer au sein de la loi. Il faut qu'il y ait une prime pour les diplômes universitaires ou d'études supérieures. C'est pour encourager au nivellement vers les hauts. Il y a la prime pour la technicité et la spécialisation. Il y en a en plus des études, il y a la technicité. Il y a la prime de commandement. De sorte que pour avoir un commandant digne, honnête, qui a un charisme, nous avons, si ce commandant remplit les conditions et qu'il travaille correctement, donc il y a une prime de commandement, il y a la prime des risques, il y a la prime d'opération militaire, de sorte à encourager le militaire à pouvoir aller au front ou défendre tout simplement parce qu'il y en a qui sont des malades pour ne pas y aller justement parce qu'il n'y a pas d'intérêt. En dehors de cela, nous avons des avantages sociaux alloués au cours de la carrière. Nous avons des allocations familiales. On tient compte non seulement du militaire, de l'officier ou du sous-officier, on tient compte aussi aux hommes, mais aussi aux femmes, en ce qui concerne son conjoint. Non, non. Il y a d'abord un officier personnel militaire masculin, on tient compte aussi du personnel militaire. La dimension genre est intégrée. En dehors des allocations familiales, il y a les compléments familiales. Nous sommes dans des familles africaines, nous avons des enfants biologiques et des enfants sous tutelle que nous adoptons. Vous suivez toute la procédure légale et ces enfants sont pris en compte. Il y a les logements, l'indemnité aussi des logements, la gratuité de consommation d'eau et d'électricité qui se confirme pour ceux qui vivent dans les casernes ou même dans des habitations privées, là où vous résidez, l'État prend automatiquement en charge. Il y a les soins de santé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous préconisons plus de l'intérieur du pays pour qu'il y ait la performance et la technologie avancée pour les soins médicaux. Les indemnités pour des frais funéraires, c'est sur l'État. Maintenant, ça pose problème. Donc, nous avons remis ça sur la table. Les indemnités compensatoires telles que définies dans toutes les lois concernant les statuts des personnels, donc de la fonction publique, les indemnités d'installation, quelqu'un qui est en déplacement, en mutation, qui arrive, il a droit à une indemnité d'installation. Et puis nous avons les frais de transport à défaut de moyens de transport.
C'est pas un chapelet de bonnes intentions.
Non, c'est pas un chapelet de bonnes intentions. Les auditeurs me suivent, savent qui je suis, ils savent ma vision. Ça, je prends, je parle de ma personne. Nous voulons justement, à part tout ce que nous avons dénoncé, donc suivant à la suite de ce que nous avons dénoncé comme discuté, nous voulons un changement. Les auditeurs doivent aussi savoir, moi-même, je suis issu d'une famille militaire, mon père suit dans l'armée. Nous avons même institué les crédits mobiliers et les crédits de véhicules. C'est vrai, tant que ce n'est pas appliqué, on sent que on pense à un chapelet de bonnes intentions, mais nous sommes engagés justement pour avoir une armée forte et républicaine à les mettre en
application. Ce que nous observons au quotidien, les conditions dans lesquelles vivent les militaires dans leurs camps, dans les casernes, ça laisse à désirer aujourd'hui, madame. Est-ce que les conditions de travail, les conditions de logement même seront revues et corrigées par rapport à cette loi?
C'est pourquoi nous avions dissocié la loi portant statut du militaire
et la loi,
et à la loi sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées. Donc il y a la structuration, la structure de l'armée. Nous devons réformer totalement les casernes, les avancements en garde, les structures, tout ce qu'il y a comme structure de l'armée. Et puis, nous devons avoir une loi spécifique.
Un projet ambitieux, très ambitieux.
C'est ambitieux, mais c'est logique, c'est tellement naturel, c'est tellement normal. Si le Congo veut avoir un Congo sécurisé.
Voilà, nous avons des correspondances que nous avons pu tirer de notre page Facebook. Il y a Franck qui nous écrit de Vienne. Il dit si cette loi sur les statuts du militaire et policier peut être promulguée demain ou après-demain, ce serait une parfaite chose. Seulement, on le constate avec regret que des lois sont promulguées chez nous, en République démocratique du Congo, mais sur le terrain, aucun impact, pas de suivi. Madame a répondu déjà à cette préoccupation, à cette inquiétude. Jacques Moulaki-Roy, vous êtes étudiant à l'IFC Béni. Je salue cette adoption des textes de loi. Néanmoins, il faudra que ces textes soient respectés et pratiqués, qu'ils ne soient pas seulement sur papier. Je préférerais que le social soit le plus tôt et régulièrement exécuté, car ces patriotes se sacrifient en risque et péril pour la défense de l'intégrité territoriale de la nation. Yannick Tanda de l'ICACI dit ceci, je suis de cet avis. Ceci est un symbole de la prise de conscience pour nos autorités. La solution pour résoudre les problèmes de l'Est, c'est pratiquement une des solutions pour résoudre les problèmes de l'Est, et vous voulez dire Yannick. Et Willy Broad de Maoula dit, cette loi n'apportera rien de neuf. Le chef de l'État et les commandants suprêmes, à ce titre, il dispose de l'armée comme bon lui, il dirige comme bon lui semble. Résultat de l'intérim mal conçu, donc avant vote égal après vote. Alors il y a encore beaucoup d'autres correspondances qui ne seront pas mises toutes ici. Il y a Olivier Kabata, merci d'avoir écrit. Fabrice Cyril Maoyo de Béni, Eugène Mwamba Siminga,
Cédre Moutoudiroua Drey, Olivier Kabata, Roger Moukéguer de Bukavu, Joseph Bahati, et puis Tichik Kakoulé qui dit les Congolais est fort dans la conception des lois et projets, mais l'applicabilité toujours absurde. Voilà, avant de prendre notre dernier auditeur, Rodrigue Mboujmaï, rapidement, Madame Esba Zaïba, comment réagissez-vous par rapport à toutes ces correspondantes? Les gens sont tout de même sceptiques. C'est vrai qu'il faut commencer quelque part, mais quelles sont les assurances que vous donnez à la population par rapport à cette loi?
Les assurances que nous donnons à la population par rapport à cette loi, c'est le Parlement qui doit s'investir conformément à ses prérogatives. Donc, il y a non seulement la législation, mais aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Nous avons les moyens de ces contrôles. Donc, nous sommes ensemble, vraiment, pour les questions qui concernent les militaires et la majorité et l'opposition ensemble, nous estimons que nous devons nous impliquer. Je devais aussi dire aux auditeurs, il y a des éléments nouveaux que nous avons pu introduire, en plus des uniformes, des insignes qui distinguent les militaires du policier national, de l'armement et de l'avancement agraire. Nous avons institué un droit à ce qui concerne la démission volontaire, conformément aux droits humains. Un militaire a droit à une démission volontaire, ou alors à une retraite, ou à une révocation. C'est vrai que la démission volontaire doit être distincte d'une désertion. On vous a envoyé en fonction, une fonction donnée, on vous a envoyé au poste, et vous désertez de ce poste-là, il y a une désertion. Donc, il faut faire un distinguo clair entre une démission volontaire et une désertion. Parce que cela va de la motivation. Lorsqu'on se sent plus motivé dans l'armée, on est libre d'écrire et que cela ne peut pas être considéré comme une désertion. Vous voyez que ce sont des éléments importants, surtout l'intégration des
militaires. Le comportement des militaires, c'est vrai que les auditeurs, par rapport à leur inquiétude, les uns ont évoqué même l'aspect, le comportement des militaires. On a toujours observé à longueur de journée des militaires qui se promènent dans la rue, comme ça, avec en tenue, mais qui ne sont pas en service. Est-ce que la loi tient compte de tout cela aussi, le comportement des militaires?
Tout à fait, nous y avons tenu compte. En fait, c'est justement l'ensemble de tous les mots décriés qui fait en sorte qu'ils puissent avoir l'élaboration d'une loi. C'est vrai que les compatriotes disent on en a marre, il y a trop de lois. Donc c'est justifié, c'est fondé ce qu'ils disent. Mais en ce qui concerne de manière spécifique l'armée et la police nationale, c'est quand même une innovation. Voilà pourquoi ça rentre dans le cadre de la réforme. Avant, on n'avait pas une loi sur le statut de policier, on n'avait pas une loi sur le statut de militaire, mais c'est cet ensemble de mots qui a fait qu'il y ait maintenant opportunité de pouvoir élaborer une loi. Et nous, parlementaires, nous ne pouvons contrôler le gouvernement, l'exécutif, que sur base d'un cadre juridique. Je ne peux pas venir sans normes légales connues et je puisse interpeller, par exemple, le ministre de la Défense, qui viendra avec son chef d'état-major, interpeller le premier ministre. Non, nous ne pouvons pas, c'est sur base de la loi. Maintenant, nous aurons un instrument, un document sous la main. Nous avons dit conformément à ceci, nous demandons une mission d'enquête, une question orale avec débat, une question écrite, et au besoin des sanctions, des propositions des sanctions. Donc voilà, c'est quand même une innovation au-delà du fait que tout ce que les compatriotes sont en train de dire, ils ont totalement raison. Au niveau du Congo, même les conventions internationales, nous ratifions, nous prenons des engagements, mais il y a toujours une dichotomie entre l'application et tout ça. Mais nous sommes en train justement des unités.
Donc il y a une volonté, c'est facile
pour qu'on puisse comprendre. Il y a une volonté, mais il y a ce qu'on
voilà, Rodrigue, vous êtes à Mboujmaï, vous avez l'honneur de boucler ce débat, le débat du jour, sur le statut portant. Disons, la loi portant statut du militaire en RDC. Rodrigue, vous êtes avec nous. Bonjour, Rodrigue.
Bonjour.
Voilà, comment réagissez-vous? Parce que c'est vous le tout dernier auditeur que nous prenons aujourd'hui et qui a l'honneur d'ailleurs de conclure en même moment avec notre invité.
Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que lorsque le législateur décide de remplacer l'ancienne loi par une nouvelle, il doit d'abord remarquer que l'ancienne loi présente des faiblesses ou des difficultés quelconques pour faire face à la situation sur le terrain. J'aurais souhaité plutôt que l'invité puisse nous présenter les avantages ou les inconvénients de présenter l'ancien système. Parce que pour nous, tout ce dont nous avons besoin, ce sont des mesures concrètes qui visent à renforcer le système de l'armée congolaise.
Voilà, merci Rodrigue. Je crois que vous venez à peine de l'Oisane. Madame Badeiba a insisté sur beaucoup de choses, hein, dans le contenu de ce projet. Et madame, on va terminer avec vous, quitte peut-être à ramper là, le contenu de ce projet et les droits des militaires, rapidement, et puis bon, on pourrait revenir dans deux minutes.
Oui, dans deux minutes, c'est pour dire que les militaires relevaient d'abord du statut du personnel de carrière des services publics de l'État. Mais ayant remarqué que cela ne prend pas en compte la spécificité du métier de militaire et la délicatesse même de ce métier-là, nous avons été obligés donc d'élaborer la loi portant le statut du personnel militaire aux côtés justement de la loi sur l'organisation et le fonctionnement des forces armées. Là-dedans, vous trouvez tout ce qu'il y a comme droit des militaires et bien entendu des devoirs. C'est là où on implique des mesures disciplinaires. Les devoirs, c'est que le militaire est appelé à collaborer étroitement avec la société civile. Le militaire est appelé à respecter l'autorité civile établie du point de vue constitutionnel. Donc, le chef de l'État, par exemple, peut être civil ou militaire, il demeure le commandant suprême de l'armée. Le chef de localité, donc le groupement, l'administrateur du territoire, donc tout ce qu'il y a comme autorité politico civile, donc le militaire est appelé à les respecter. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas militaire qu'on ne peut pas les respecter. Ça, c'est très important. Mieux intégrer le respect des droits de l'homme. Donc, nous avons dit aux militaires, aidez-nous à vous aider. Nous sommes en train de nous aider à collaborer étroitement. Mais rassurez-vous, chers compatriotes, que nous allons nous impliquer si nous voulons que le Congo soit vraiment un pays sécurisé, que nous devons tenir compte de la sécurité de notre pays, il faut absolument que nous tenions compte aussi de la sécurité sociale des militaires.
Donc nous retenons une chose, que les militaires autrefois étaient traités de la même manière que le personnel de carrière de service, hein, selon la loi, comme vous l'avez dit, 81/003 du 17 juillet 1981. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'innovations et nous pouvons peut-être renvoyer au moment où il y aura la promulgation au journal officiel pour que la population puisse se faire une idée sur l'intégralité, le contenu, l'ensemble du contenu de cette loi. Madame Eve Badeiba, nous rappelons que vous êtes la présidente de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de réfléchir ensemble avec les auditeurs dans cette tribune et partage autour de la question sur la loi portant statut du militaire en RDC. Nous allons vous retrouver peut-être très prochainement dans un autre débat. Merci à vous tous également d'avoir participé à ce débat. Merci à Sylvain Matoudou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Sylvain Poutou et Thierry Lamégie l'ont réalisé et Jérôme Guimbo pour la présenter sous la supervision de Nicole Ndaka. L'info continue sur notre site web www.radiocapi.net. Le moratoire pour les artistes de petit commerce aux étrangers a expiré il y a deux jours. Ce délai moratoire interdisait à toute personne étrangère conformément à la loi sur la politique économique d'exercer le commerce en détail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous constaté dans votre milieu de cette décision? C'est cette question qui occupera demain le cœur du débat. Dans parole aux auditeurs, inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiotapi.net vos commentaires et préoccupations et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. À tout de suite.